premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la préparation du baccalauréat d'histoire dans le cadre de l'opération Bac 2017 mention France Culture qui mobilise toute cette semaine la Fabrique de l'Histoire, les chemins de la philosophie, la méthode scientifique, la compagnie des auteurs et l'émission de Cause à effet le dimanche à 16h sur France Culture. Comme toutes les émissions de France Culture consacrées à la préparation du bac, nous allons chaque jour jusqu'à jeudi vous proposer un corrigé par un professeur et des questions de ses élèves, mais aussi en ouverture de chacune de nos émissions à un reportage dans un lieu d'histoire lié à notre thème du jour. Mardi, nous vous parlerons des États-Unis et du monde, mercredi de la guerre d'Algérie et jeudi de l'Europe politique. Et aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir au thème « Gouverner la France depuis 1946 » après un reportage de Séverine Niattard, de Yves Le Horse et de Véronique Samouilov au Conseil économique, social et environnemental qui ouvrira cette émission. Sébastien Durand, professeur au lycée Olympe de Gouges de Noisy-le-Sec, nous proposera un corrigé. Ses élèves ainsi que ceux du lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, ici présents, pourront en fin d'émission y réagir. Bonjour Sébastien Durand.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation de venir ainsi donc faire un corrigé dans le cadre de ces émissions spéciales de la Fabrique de l'Histoire consacrées au baccalauréat. D'ailleurs, il faut dire à ceux qui nous écoutent que s'ils veulent réécouter des anciennes émissions, nous en avons fait plusieurs saisons de ces émissions du baccalauréat, eh bien qu'ils aillent sur le site de France Culture, ils y trouveront d'autres corrigés. Alors, ce thème, gouverner la France depuis 1946, peut paraître un peu austère, surtout avec son sous-titre, État, gouvernement, administration et opinion publique. C'est un thème qui prend chez les élèves et les étudiants de terminale ou c'est un peu compliqué ?
Bien, c'est un thème assez difficile. On remarquera déjà la longueur de l'intitulé du sujet. État, gouvernement, administration, opinion publique. Autant de notions que les élèves doivent apprendre à définir et savoir définir le jour de l'épreuve si le sujet tombe.
Voilà, alors pour peut-être rendre ça un tout petit peu plus digeste, nous allons sortir de ce studio et rejoindre donc tout près de la Maison de la Radio, d'ailleurs un lieu qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental, grâce à un reportage documentaire de Séverine Niattard dans une prise de son de Yves Le Horse et une réalisation de Véronique Samouilov. Nous voici partis et nous nous retrouvons après la diffusion de ce reportage.
Bonjour Alain Chatriot.
Bonjour.
Alors nous sommes avec vous au Palais d'Iéna, au Conseil économique et social et environnemental. Donc ce magnifique bâtiment qu'Auguste Perret a commencé à construire dans les années 30, hein, qui n'est pas tout de suite d'ailleurs habité par le Conseil économique, on va y revenir, hein, puisqu'il n'a pas été tout de suite Conseil économique, social et environnemental. Il abritait en fait le musée des travaux publics, hein, puis il a abrité à partir de 54, je crois, l'Assemblée de l'Union française, pour enfin accueillir donc ce Conseil économique et social en 1959. Mais peut-être pour commencer, dès le 19e siècle, on commence déjà à réfléchir à avoir une assemblée qui pourrait être consultative, c'est-à-dire aider d'une certaine manière le gouvernement à réfléchir sur les problématiques économiques et du travail.
Les choses deviennent un peu plus précises à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle pour une raison toute simple, c'est que la place accordée aux syndicats dans la République est devenue beaucoup plus importante après la loi de 1884 et après la loi de 1901 sur les associations. Donc les projets deviennent un peu plus précis. Ils réfléchissent aussi parce que toute une partie du camp républicain critique la forme prise par le Sénat. Et donc, par exemple, Jaurès réclame une chambre du travail pour remplacer un Sénat qu'il considère comme trop conservateur. Mais le fonctionnement des institutions de la Troisième République fait que les évolutions sont très lentes et l'évolution n'aura lieu que après la Première Guerre mondiale, au milieu des années 20. La Première Guerre mondiale est un vrai choc pour cette génération, à la fois d'hommes politiques et de syndicalistes. Et on voit les projets pour une assemblée, qu'elle soit avec des attributions très larges ou qu'elle soit simplement consultative, devenir très nombreux au sortir de la Première Guerre mondiale. Et au milieu des années 20, au moment de l'alternance politique, il y a cette création, par décret, en janvier 1925, d'un Conseil national économique. L'idée est alors que véritablement les syndicats soient associés à un travail de réflexion sur les questions économiques et sociales. Et quand je dis les syndicats, c'est bien l'ensemble des confédérations de salariés, mais aussi le syndicalisme patronal, le syndicalisme agricole, le monde des artisans, des ingénieurs. Donc c'est un premier moment où des projets qui étaient encore un peu flous au XIXe siècle, là d'un seul coup se concrétisent et aboutissent à une création d'institutions.
Il y a aussi le Front populaire entre-temps.
Il se trouve que pour le devenir de l'institution, son travail lui permet, sur les questions économiques lui permet de se construire une légitimité dans le fonctionnement de l'État. Mais l'étape la plus importante, c'est bien celle de 1936, parce qu'avec les lois sociales du Front populaire, réduction du temps de travail, semaine de congés payés, convention collective, puis arbitrage des conflits collectifs du travail, le Conseil national économique prend une importance dans les négociations et devient un des lieux de débat importants. Il faut rappeler que l'institution est supprimée par le gouvernement du maréchal Pétain, qui a une vision d'un État corporatiste dans le cadre d'un syndicalisme unique et obligatoire. Et donc, tout ce mouvement trop lié à la Troisième République et avec le renforcement du Front populaire est totalement balayé. Par contre, les mouvements de résistance y pensent, que ce soit la France libre ou la résistance, et à la Libération, effectivement, là, le terme de démocratie sociale est employé par l'ensemble des acteurs du spectre politique. Et on a la transformation et le fait que ce Conseil national économique devienne le Conseil économique, tout court, au début de la 4e République.
Alors, pour parler de ce Conseil économique du début de la 4e République, Alain Chatrillon, nous allons nous rendre donc dans la salle hypostyle de ce Conseil économique, social et environnemental. Nous allons quitter la devanture, finalement, de cette magnifique rotonde en béton et en baie vitrée, édifice donc construit, je le rappelle, par Auguste Perret.
Cependant, ce monde en gestation s'organise. À Paris s'est tenu le congrès de la CGT.
Clôture du congrès de la CGT, 18 avril 1946.
Il a affirmé une fois de plus dans une fumée pacifique et sous l'égide de Léon Jouot, de Benoît Frachon, de Louis Saillant, la réalité de l'unité ouvrière, le monde du travail a aujourd'hui officiellement sa place dans la vie et dans l'État.
Alors Alain Chatrillon, nous sommes dans cette fameuse salle hypostyle, magnifique salle, hein, très spacieuse, avec des colonnades, hein, un plafond en bois, béton. Qu'est-ce qui se passe en 1946 ? On affirme les fonctions du Conseil économique dans la Constitution. On constitutionnalise cette chambre, cette troisième chambre.
On les a un peu oubliés, mais les débats constitutionnels à la Libération sont très intenses. À la fois parce que la France libre et les mouvements de résistance intérieure les ont portés, qu'à Alger on en a beaucoup discuté, et c'est au cœur de très nombreux débats. Débat renforcé par le fait que le premier projet de constitution préparé par la Constituante, qui prévoyait une seule chambre et un conseiller économique à côté, qui avait donc beaucoup plus de pouvoir, ce premier projet est rejeté par référendum. On l'oublie un peu, le premier travail de la Constituante a un avis négatif.
C'est De Gaulle qui avait proposé ça, Alain Chatrillon en particulier ou...
Pas complètement, parce qu'il se tenait un peu à distance des débats constitutionnels dans la manière dont ils se structuraient par la présence des forces politiques partisanes. De Gaulle intervient via le discours de Bayeux pour redire son attachement à ce type d'assemblée professionnelle. Mais il n'était pas intervenu totalement au moment des votes référendaires. Dans le texte du second texte constitutionnel soumis à référendum et finalement validé et qui donne lieu à la constitution de la 4e République, là, on a un retour d'une deuxième chambre, le Conseil de la République, l'équivalent du Sénat, et on a un Conseil économique en troisième chambre consultative et effectivement, comparativement à la situation de la 3e République, qui cette fois est affirmée dans la Constitution. C'est une affirmation symbolique forte. Et donc là, on a un moment d'accord qui va véritablement des gaullistes aux communistes, en passant par les démocrates chrétiens, par les radicaux et les socialistes. Donc c'est un moment où, au fond, les débats, les luttes, les hésitations de l'entre-deux-guerres sont dépassées dans l'idée que ça doit accompagner la reconstruction du pays comme un élément central.
Un pays qui est dans une situation économique désastreuse, hein, les Chatrillon, hein, faut bien le rappeler, quoi, au lendemain de la guerre, c'est la période de la reconstruction, les gens ont du mal à vivre, tout simplement.
C'est impressionnant, quand on regarde les travaux produits par le Conseil économique sous la 4e République, on voit tous les grands dossiers de la politique économique qui y passent, du logement, de l'industrie lourde, de l'évolution du monde des mines, grands travaux, des aménagements hydrauliques, les mutations de l'agriculture, jusqu'à la politique scientifique. Donc ça donne une petite idée d'un spectre très large, mais en même temps d'un spectre confrontée au débat de son temps.
D'ailleurs, la première loi sur laquelle est saisi justement ce conseil économique, Alain Chatriot, concerne le monde agricole, je crois.
Tout à fait. Et de ce point de vue-là, les questions agricoles, mais c'est vraiment lié à la structure de l'économie française pendant très longtemps et encore de nos jours, ont été des questions traitées en permanence de 1925 à nos jours. Et elles sont intéressantes parce qu'elles sont traitées, certes, par des représentants des syndicats agricoles qui siègent dans les versions successives des conseils, mais aussi, justement, par des représentants de salariés, des représentants patronaux, des représentants associatifs. Donc c'est vrai que les questions agricoles, dans le temps long, sont très présentes dans le fonctionnement même de ces institutions, parce que, par rapport à l'économie française, elles sont des questions majeures.
Alors, avant de revenir à Alain Chatriot sur justement le fonctionnement de ce conseil économique et social, juste dans cette fameuse salle où nous sommes, il y avait avant les bustes des présidents de ce conseil à compétences économiques. Ils n'y sont plus, malheureusement. Et ça peut nous donner l'occasion de parler du premier. C'est significatif, le premier président de ce conseil économique, c'est Léon Jouot.
Alors, il faut juste rappeler que sous la Troisième République, en fait, le conseil était présidé par le président du conseil. Donc, il n'y avait pas de président, il y avait des vice-présidents, et les postes de vice-président étaient des postes importants et bien répartis en fonction des différents groupes sociaux, mais il n'y avait pas de président. Sous la Quatrième République, il y a un président, et effectivement, le premier à obtenir ce titre, c'est Léon Jouot. Léon Jouot, leader de la CGT, puis après la scission de la CGTFO, avait été très actif durant l'entre-deux-guerres au Conseil national économique et sort à la Libération auréolé de la puissance de la CGT, avant sa scission avec l'entrée en guerre froide. Jouot est très attaché à l'institution, il en est en même temps une figure importante parce que dans le fonctionnement de l'ensemble de la 4ème République, il donne une visibilité très forte à l'institution. Jouot est récompensé par le prix Nobel de la paix. Il y a de ce point de vue-là un moment important. Les présidents suivants auront des figures assez différentes. Ils seront parfois des représentants des questions économiques, parfois d'autres représentants syndicaux, parfois aussi d'anciens ministres très concernés par les questions économiques et sociales. Donc on aura une variation. Ils sont toujours assez significatifs de l'état des relations sociales et du fonctionnement de ces relations sociales dans le cadre de l'évolution de la société française.
Par exemple, il y aura Émile Roche, qui sera nommé en 1951, qui est journaliste, spécialiste des questions économiques, mais qui était un membre actif du Parti radical, je crois, dans les années 30.
Tout à fait. Après, la présidence revient à Gabriel Ventejol, qui était un leader de Force ouvrière, et de ce point de vue-là, l'inscrivait dans la continuité de Léon Jouot. Les choses vont par la suite un peu changer, on aura des figures intéressantes parce que ce sont des figures qui restent très impliquées dans les questions sociales. Jean Matteoli, qui avait été ministre du Travail, mais qui était aussi un grand résistant et président de la Fédération des déportés de France, donc qui était aussi une manière d'assurer une continuité historique d'un rapport à la société de manière très nette. Et puis, par la suite, les présidents ont été Jacques Dermagne, un représentant du syndicalisme patronal très lié au gaullisme social, ce qui est aussi significatif dans la vision de l'institution. Puis Jean-Paul Delevoye, qui avait pris ce poste après avoir été médiateur de la République. Et l'actuel président est Patrick Bernasconi, qui est un représentant du syndicalisme patronal, là aussi très impliqué dans les négociations sociales.
Alors, Alain Chatriot, nous allons nous rendre maintenant dans ce fameux hémicycle, là où les débats, là où on délibère. Et puis, du coup, nous reviendrons sur l'organisation, évidemment, de ce Conseil économique et social et environnemental depuis 2008.
17 octobre 1974.
Le Conseil économique et social a fait hier sa rentrée et il a élu son nouveau président, Gabriel Ventejol, secrétaire du bureau confédéral de Force ouvrière. Il a 56 ans et il est membre du Conseil économique et social depuis 15 ans. Il participe aussi depuis plusieurs années au Conseil supérieur du plan et au Conseil économique et social européen.
Ce que j'entends, c'est que nous développions au sein de ce Conseil, avec tous les groupes sans exception, la concertation la plus large. Pour ce qui concerne les travaux que nous allons avoir à accomplir, je dois dire que précédemment, nous avons pu obtenir du gouvernement, et je veillerai à ce que cela s'accélère, à être saisi des problèmes qui sont dans la vie économique et sociale les plus importants. Mais vous savez aussi que nous avons le droit de saisine, c'est-à-dire que nous pouvons nous saisir nous-mêmes de sujets qui m'apparaissent personnellement aujourd'hui extrêmement importants. Et si vous le voulez, j'en évoquerai trois. C'est la situation économique et sociale intérieure, les craintes que l'on peut avoir en ce qui concerne l'emploi, les craintes que l'on peut avoir sur la construction européenne, et là-dessus, nous aurons des avis à donner. Et je crois aussi que, étant donné les déséquilibres internationaux, je pense qu'une de nos tâches sera de nous prononcer sur ce que pourrait être la coopération internationale.
Alors, Alain Chatrioux, nous sommes maintenant dans l'hémicycle, hein, magnifique hémicycle, donc en béton, bois, et puis avec une série de fauteuils en velours rouge. Alors, un hémicycle qui est censé accueillir, évidemment, les membres du Conseil économique et social, je crois, prévu pour 230, environ, hein, 230 membres, et puis, au-dessus, un certain nombre de places aussi prévues pour le public. C'est sous-entendu que les délibérations pouvaient, vous allez me le dire, être publiques. En tous les cas, est-ce qu'on pourrait maintenant parler de quand même l'organisation de ce Conseil économique ?
Quand les membres du Conseil économique arrivent au début de la Ve République ici, certains sont très réticents à cette forme hémicycle parce que ça fait trop assemblée. Et d'autres, au contraire, souhaitent que l'institution soit reconnue comme une troisième assemblée pleinement, et donc finalement vont s'adapter et adopter avec à terme plaisir cette forme-là. Et effectivement, on a des bancs pour le public, comme on les a traditionnellement dans les assemblées, et progressivement, mais aujourd'hui de manière importante, les séances du Conseil économique social, devenu Conseil économique social et environnemental, sont, lorsqu'on appelle pour des sessions plénières, ouvertes au public. Alors, dans le même temps, dans l'hémicycle, c'est simplement justement les votes de plénière qui se font. L'ensemble du travail sur les avis et rapports sont traités d'abord dans des commissions, par des sections spécialisées, par des groupes de travail. Mais c'est ici que l'on vient voter, c'est ici aussi, dans cette salle, qu'ont lieu un certain nombre de discours officiels. Et puis, depuis quelques années, ça a aussi été un lieu qui a accueilli un certain nombre de grandes conférences sociales. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un lieu qui serait refermé sur son action, c'est aussi un lieu qui, au-delà du travail de ses membres, est aussi ouvert à un certain nombre de manifestations concernant les questions économiques et sociales.
Et on a voulu cette assemblée très largement représentative des forces économiques du pays. Alors, si on parle du moment de la libération, par exemple, on peut trouver une répartition comme suit. Il y a environ une quarantaine de personnes qui concernent les organismes de travailleurs, une vingtaine les entreprises, une dizaine les artisans, une trentaine les agriculteurs, environ une dizaine qui concerne les coopératives, les territoires d'outre-mer. Il y a des représentants qualifiés, on va revenir, c'est un petit peu particulier, c'est des membres à compétences scientifiques. Et puis, il y a aussi des associations familiales. Et puis, comme on en lendemain de la guerre, il y a aussi deux représentants d'associations de sinistrés.
Alors, tout à fait. Il se trouve que là, la photographie de la libération montre bien l'organisation de la société à l'époque. Il se trouve que cette question de la composition du Conseil économique, quelle que soit sa dénomination à travers le temps, a toujours été une question majeure. Il s'agit d'abord de savoir comment on découpe la société. Quand on compare à d'autres institutions à l'étranger, on a parfois des conseils où il y a simplement d'un côté le monde du travail, de l'autre côté le monde patronal. La situation française a toujours été un choix, une représentation beaucoup plus fine, avec beaucoup plus de catégories. Mais elles ont varié dans le temps. Ça, c'est la première dimension. Comment on découpe ? La deuxième dimension, c'est, une fois qu'on a découpé, comment on équilibre les forces. Mais il y en a une troisième qu'il faut aussi avoir en tête, c'est une fois que vous avez décidé que vous accordez tant de sièges à tel type de représentants, comment ces représentants vont-ils être désignés ? Et là, il se trouve que cette question a toujours été débattue. Le plus souvent, et c'était le cas dans l'entre-deux-guerres et ça l'est resté pendant très longtemps, le choix qui a été fait, c'était de dire que les membres seraient désignés par les organisations les plus représentatives. Et cette expression d'organisation les plus représentatives, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas une spécificité française, c'est l'expression qui est employée à partir de l'entre-deux-guerres pour l'Organisation internationale du travail, qui est créée à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donc ça indique bien que ce débat, il n'est pas que franco-français, il est aussi international.
Alors, Alain Chatrioux, juste, est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples, peut-être de grandes questions qui ont été débattues ? Peut-être par le Conseil économique et social.
Sur certains sujets, le Conseil a été le porteur de nouvelles questions. Et là, il y a un exemple vraiment très célèbre et important, c'est autour des questions de la grande pauvreté. siégeait au Conseil comme représentant associatif, pas comme représentant syndical, mais comme représentant associatif, le président d'ATD Quart-Monde, à l'époque le père Wazniewski, et au milieu des années 80, il fait un rapport au Conseil économique et social très important sur la grande pauvreté. Et 10 ans après, la personne qui lui a succédé, Geneviève de Gaulle-Antonioz, fait à nouveau un rapport sur la grande pauvreté au Conseil économique. Et c'est un moment important pour sensibiliser l'ensemble des institutions et du monde public sur ces questions.
Et sur des questions à Alain Chatrioux, comme par exemple, je pense, durant les années 50, le SMIG, ou après, sous la période Guy Mollet, la troisième semaine de congés payés, par exemple, ou la sécurité sociale. Que ce sont des questions sur lesquelles le Conseil économique et social est saisi et consulté.
Alors, sur les questions de temps de travail, il reste un acteur important des négociations durant toutes les années 60, et de ce point de vue-là, il est une butte témoin très intéressante pour voir la manière dont les débats évoluent sur la question du temps de travail. Sur la question de la sécurité sociale, c'est une question un peu plus délicate, parce que, en particulier à la fin des années 70, au début des années 80, c'est une question à la fois syndicalement et politiquement très sensible, et donc le Conseil l'aborde, mais l'aborde avec une certaine prudence, parce que c'est aussi une ligne de fracture importante. Et son mode de travail fait que, par le travail en commission, puis par les débats en plénière, par la mobilisation possible d'experts extérieurs, il y a un vrai travail, non pas scientifique, mais de dialogue social et de mise en commun de connaissances qui est très précieux sur ces questions-là et qui, aujourd'hui, grâce à des archives bien conservées par l'institution puis déposées aux Archives nationales, permettent d'avoir des éléments très intéressants pour comprendre la vie économique et sociale de la France après la Seconde Guerre mondiale.
Voilà donc pour ce reportage qui ouvre cette émission consacrée donc aux corrigés du baccalauréat pour ceux qui préparent et celles qui préparent le baccalauréat cette année. Dans le thème « Gouverner la France depuis 1946 », on a donc entendu dans ce reportage le professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, Alain Chatrioux, nous expliquer les espoirs de la fin de guerre et l'importance justement que prenait l'existence de cette nouvelle assemblée qui était le Conseil économique et social, donc dans le gouvernement de la France. Ça fait partie, Sébastien Durand, de ce qu'on doit savoir quand on prépare ce baccalauréat sur cette thématique, justement, de gouverner la France depuis 1946.
Alors, je ne pense pas qu'on puisse attendre des élèves qui nous parlent directement de cette institution qui est en fait une sorte de troisième assemblée dont le rôle peut apparaître très secondaire. On l'évoquera sans doute pas directement. En revanche, c'est un exemple qui peut éventuellement être amené pour rappeler en fait cette volonté de refonder la République au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a pu entendre dans ce reportage que c'était donc le rétablissement d'une institution qui existait déjà sous la Troisième République, et donc on est bien dans cette idée de refondation et puis d'ouverture à la société civile, de volonté de modernisation.
Des syndicats
aussi,
en particulier.
Exactement.
Et donc si on se plonge maintenant avec vous dans un corrigé possible de cette thématique gouverner la France depuis 1946. État, gouvernement, administration, opinion publique, comment compose-t-on sa copie d'une certaine façon, Sébastien Durand ?
Alors, je rappellerai préalablement qu'il s'agit donc de l'intitulé du programme de Terminal S, qui donc inclut par rapport au TEL, au terminal littéraire et économique, la notion d'opinion publique. Voilà. J'ai néanmoins essayé de proposer un corrigé qui puisse être adapté
à peu près toutes les sections.
Mais avec du coup une attention particulière donnée à l'opinion publique pour bien répondre à cette problématique, disons, spécifique au programme de TS.
De toute façon, il faut bien dire que dans un autre chapitre de ce programme, il y a un chapitre qui est consacré aux médias et à l'opinion publique.
À part entière. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, l'introduction, je dirais qu'elle doit être accrocheuse, intelligente, brève. accrocheuse.
Ça fait beaucoup de qualité.
Ça fait beaucoup de qualité, beaucoup de savoir-faire que les élèves doivent acquérir tout au long de leur formation scolaire. Accrocheuse, alors on a le choix bien évidemment, hein, c'est très classique, entre l'évocation d'un fait historique, d'un événement de l'actualité. Pour un sujet comme celui-ci, évidemment, on pourrait être tenté d'aller piocher parmi l'actualité la plus brûlante de l'élection présidentielle. Ça peut être risqué. Je crois qu'il vaut mieux privilégier, en tout cas je l'ai fait, une citation. C'est souvent une valeur sûre. Je suis plutôt partisan d'une citation qui porte quand même un signifiant avec une relative évidence. Voilà. Donc j'ai choisi la citation suivante, elle est de François Mitterrand, le 15 juillet 1981, quelques jours justement après son élection à la présidence de la République. Je cite, « La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. » L'intérêt de cette citation, bien évidemment, c'est de rappeler d'une certaine manière ou d'amener en fait l'introduction sur le rappel de la construction ancienne de l'État, et puis de s'inscrire au cœur finalement de la période que nous étudions. Là, on est en 81, et à un moment charnière justement, avec une articulation où on commence à redéfinir d'une certaine manière le rôle de l'État.
Oui, ça veut dire donc dire que on peut, dans une introduction, commencer par une citation, par exemple, qui se tiendrait à mi-chemin de la période que l'on étudie. C'est-à-dire que ça permet de faire une sorte de bilan dès l'ouverture de sa copie de ce qui s'est déroulé jusqu'en 1981 et aussi d'imaginer qu'il y a une ouverture pour peut-être la suite, c'est cela ?
C'est l'approche que je privilégierais, c'est-à-dire que essayer de construire une introduction qui tout de suite nous donne un petit peu une idée des dynamiques du sujet et ne s'arrête pas sur un questionnement parfois trop ouvert ou qui, dont on ne sache pas vraiment où il peut nous mener. Donc quelque être capable d'en dire déjà un peu du sujet sans trop en dire, évidemment, il ne faut pas tout...
révéler.
Voilà, tout révéler d'emblée.
Est-ce qu'il y a un dictionnaire des citations pour les élèves qui passent le bac?
Internet est très pratique pour cela, mais il faut toujours bien évidemment faire peut-être demander aux élèves qui peuvent chercher par eux-mêmes. Il y a plein d'autres citations possibles, hein, je les proposerai pas ici, faute de temps, mais leur demander de bien vérifier déjà l'exactitude des citations, car souvent on les retrouve dans différentes sources plus ou moins tronquées, donc attention à bien reprendre la citation in extenso.
Avec cette fameuse phrase du général de Gaulle, il ne faut pas se fier à tout ce que l'on trouve sur Internet, par exemple. Ouais, c'est évidemment une fausse citation, parce que le général de Gaulle n'a jamais connu Internet. Voilà.
Voilà. Donc, se méfier donc des citations éventuellement tronquées et bien en vérifier la source et l'auteur. Voilà. J'ai trouvé des citations dont on donnait la paternité à des auteurs qui ne la méritaient pas.
Voilà. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, on prend une citation qui ramasse un peu le sujet et on peut ouvrir sa copie.
Et qu'il lance.
Voilà. On peut ouvrir sa copie sur ce thème.
Et on ouvre sa copie sur ce thème-là. Alors, rappeler, c'est de la méthodologie élémentaire, hein, bien évidemment, de bien définir les termes du sujet. Alors, sur un sujet comme celui-ci, ça peut être très vite laborieux, parce que si on commence à définir chacun de ces termes
État,
un à un,
gouvernement,
voilà,
administration,
l'introduction risque d'être, on va rater l'objectif qui était de faire une introduction brève. Donc il faudra ramasser les choses et puis les présenter d'une manière, on va dire, organisée, c'est-à-dire éviter la présentation un peu tiroir qui consisterait à dire voilà, le gouvernement c'est ceci, etc. Mmh. Voilà. Donc je vous épargnerai peut-être la définition de ces termes. Je pense que les élèves les ont dans leurs cours ou dans leurs manuels. Pour gagner du temps, je vais juste peut-être proposer une formulation. C'est la suivante. Donc, enchaînant sur cette citation, c'est donc dans la forte empreinte de cet héritage historique que s'inscrit donc l'action des gouvernements qui, depuis 1946, année de fondation de la 4e République. Donc là, c'est l'occasion de définir la borne chronologique du sujet.
Pourquoi on a choisi 1946?
Voilà, de rappeler voilà, pourquoi 1946. Donc l'action des gouvernements qui redéfinissent et adaptent l'État. Ça peut être à cette occasion qu'on définit donc la notion d'État et son administration, on fait de même pour l'administration, pour répondre aux différents défis que la France doit relever, reconstruction, puis modernisation, crise, mondialisation. Voilà. Ces gouvernements doivent aussi composer avec une opinion publique, et on définit alors l'opinion publique, qui peut légitimer ou, légitimer ou contester donc l'action politique.
Alors, on a la première borne chronologique, celle du début, 1946. Ça veut dire que quand on fait une telle copie, on doit venir jusqu'à aujourd'hui ou au plus proche d'aujourd'hui ou s'arrête à quel moment?
À nos jours. Je proposerais une conclusion qui va directement s'inscrire dans l'actualité. Sous-entendu, à nos jours. Voilà.
Alors, on a fait l'introduction.
Voilà. Alors, juste petite remarque, j'oubliais. Faire peut-être... En intermède entre cette citation et ce que je viens de vous proposer, un petit rappel sur quand même cette construction, mais très rapide en deux lignes, quelques étapes. On peut évoquer la construction de l'État à partir donc du Moyen-Âge, rappeler peut-être le colbertisme, le jacobinisme, de manière très brève.
Ah oui, parce que si vous voulez faire une introduction brève, on est déjà un peu
loin. L'idée, c'est quand même de donner, de dire que les élèves ont cet outillage-là, et qu'à partir de là, c'est à eux aussi de composer, d'imaginer et de sélectionner. Voilà. À l'issue donc de cette introduction, bien évidemment, on propose une problématique. Je proposerai la problématique suivante. Donc, comment le rôle de l'État en France a-t-il été redéfini par l'action politique des gouvernements depuis 1946 ? Comment évoluer la manière de gouverner ? Et comment a pu évoluer également le rapport entre le gouvernement et l'opinion publique?
Alors, il faut s'arrêter là-dessus parce que ceux qui nous écoutent depuis plusieurs années le savent, la question de la problématique est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut définir l'axe, pourrait-on dire, dans lequel on va faire son travail de copie. Et cet axe, c'est la problématique. C'est donc choisir la question que l'on va poser ou les questions que l'on va poser dans sa copie et dont on va trouver la réponse, proposer la réponse.
Qui oriente toute la réflexion. Et c'est pour ça qu'il faut bien la penser et qu'il faut essayer déjà de penser au sujet dans sa totalité pour ne pas s'arrêter par exemple, selon moi, la problématique ratée, c'est celle qui ne serait qu'un point d'interrogation mis au bout de la formulation du sujet.
Voilà. Donc là, vous la répétez peut-être cette problématique parce que c'est important de l'avoir en tête pour le reste de la copie. Donc,
comment le rôle de l'État en France a-t-il été redéfini par l'action politique des gouvernements depuis 1946? Comment a évolué la manière de gouverner? Et comment a pu également évoluer le rapport entre le gouvernement et l'opinion publique?
Et ça veut dire que la partie, c'est trois parties.
Ça ne correspond pas aux trois parties.
Ah bon, d'accord.
Voilà, ce sont justement trois axes de pensée, on va dire, qui vont à chaque fois articuler la construction de chacune des parties.
D'accord.
Voilà. Alors le plan proposé. Alors, on annonce le plan. Je l'annoncerai peut-être au fur et à mesure du déroulé pour gagner un petit peu de temps. Le plan proposé est un plan chronologique. J'ai proposé. Alors, on a deux possibilités. Un plan en deux parties. Partant de 46 jusqu'au tournant des années 70, puis de 70 à nos jours, ou un plan en trois parties, peut-être plus classique et un peu plus construit sur les ruptures institutionnelles. C'est celui que j'ai choisi. Donc 46-58.
C'est amusant parce que le plan de deux parties est toujours abandonné souvent par les professeurs parce que c'est.
Il y a une sorte de peut-être
une matrice de plan en trois parties.
Une matrice trois parties, trois sous-parties qui nous rassure.
Voilà.
Mais ceci étant dit, à mon sens, les deux propositions sont tout à fait valables et que. Pour les TS, on peut peut-être même penser que la proposition en deux parties sera peut-être plus simple à traiter dans un sujet, pour un travail, ils n'ont que 2h, 2h15 sur une épreuve. Donc, ce sera peut-être plus facile.
Alors, on y va.
Donc, la première partie traite de la restauration et de la modernisation de l'État sous la 4e République, donc 1946-1958. Alors, rappelez toujours le contexte. Le contexte, c'est le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un contexte donc difficile, celui d'une France que la Deuxième Guerre mondiale a divisée et affaiblie à tout point de vue. Et donc, pour les gouvernements, pour le gouvernement provisoire, puis les gouvernements de la 4e République, deux défis majeurs, un défi politique, donc restaurer la République, après la parenthèse du régime de Vichy, et puis un défi économique et social, donc reconstruire le pays et apporter le bien-être à sa population. Alors, pour relever le défi politique, la création, donc la restauration républicaine, donc création d'un nouvel État républicain, on peut rappeler brièvement que c'est un régime accouché dans la douleur, puisque l'année 46 va être marquée par la démission du général de Gaulle, par l'élection de deux assemblées constituantes, l'organisation de deux référendums, et que c'est seulement à l'issue de ce référendum que la 4e République, le régime, donc, est adopté, que la Constitution, est adoptée, et encore avec une minorité, finalement, d'électeurs, puisqu'il y a un fort taux d'abstention, et que, du coup, finalement, on a un taux d'abstention de 30%, finalement, une faible assise, justement, de l'opinion publique. On peut, du coup, tout de suite, d'une certaine manière, évoquer cette notion,
faire
parler un peu le sujet de ce point de vue-là. Voilà. Alors, la nouvelle Constitution, rapidement, on ne peut pas rentrer dans les détails institutionnels, rappeler qu'il s'agit donc d'un régime parlementaire. Il faut rappeler la définition de régime parlementaire, donc un régime politique dans lequel le gouvernement est responsable devant le Parlement. Régime parlementaire avec comme principale institution l'Assemblée nationale, qui est alors la seule institution élue suffrage universel direct à l'échelle de la nation. Donc elle a cette légitimité supérieure sur toute autre institution républicaine. Et puis une Assemblée nationale qui est élue au scrutin proportionnel, qui en revanche peut rendre plus difficile le gouvernement, la création d'une majorité de gouvernement. Ce nouveau régime parlementaire on s'inscrit dans la volonté d'un parlementarisme rationalisé. Je pense que c'est une notion importante à mettre en avant, l'idée qu'on a la volonté alors de donner plus de moyens au gouvernement. C'est notamment le président du Conseil qui a le droit de dissolution sur l'Assemblée. On l'a beaucoup oublié, parce qu'on va reparler de l'instabilité gouvernementale de la 4e République, mais c'est peut-être bien que tout n'était pas joué dès le départ. Cette Constitution inscrit dans son préambule donc quelques grands principes républicains, déclaration des droits de l'homme, souveraineté du peuple, l'égalité homme-femme, qui est un nouveau principe, et puis les principes d'un nouveau contrat social, affirmant la nécessité du service public, le droit au travail, le droit syndical, le droit à la protection, qui sont inscrits dans le marbre, d'une certaine manière, dans la Constitution, et c'est-à-dire autant de droits sociaux, et avec cette volonté, finalement, d'établir non seulement une démocratie politique, mais aussi une démocratie sociale. Rappeler aussi cette Constitution est inspirée très largement des principes du Conseil national de la Résistance, et que parmi les constituants, puis ensuite les députés de l'Assemblée, beaucoup sont d'anciens résistants.
Ensuite,
on passe au deuxième défi.
La reconstruction.
La reconstruction, le défi économique et social. Alors, c'est la mise en place d'un État keynésien. Là, il est indispensable de définir l'État keynésien, c'est-à-dire un État interventionniste qui soutient la demande et investit pour relancer ou soutenir l'activité économique. Donc, le terme vient donc de l'économiste britannique Keynes, qui inspira dans les années 30 donc, le New Deal de Roosevelt aux États-Unis. On peut oser, en s'appuyant sur les historiens qui ont écrit récemment sur le sujet, parler donc d'un New Deal français, qui va s'appuyer sur donc la mise en place d'un État entrepreneur avec les nationalisations, des nationalisations qui vont concerner essentiellement les secteurs stratégiques de l'économie, l'énergie, la banque, les transports, l'industrie avec Renault, et puis la planification, donc planification indicative qui n'a rien à voir bien évidemment avec la planification soviétique, qui va être aussi l'occasion de créer une nouvelle administration. Encore une fois, on est dans le sujet, donc montrer aussi qu'on a compris le sujet et qu'on met en avant des exemples, justement, qui justifient ces différents termes, avec donc la création du commissariat au plan, qui sera dirigé par Jean Monnet, figure très importante de cette période, de 1946 à 1952, et qui permet donc la mise en place d'une économie concertée, publique-privée. C'est également le renforcement de l'État-providence. Donc un État qui intervient dans le domaine social pour diminuer les inégalités, protéger sa population contre les risques de l'existence. Évidemment, on évoque la création de la sécurité sociale. On peut aussi également évoquer la création des HLM en 1947. En 1950, la création du SMIC, salaire minimum. L'État crée aussi une école nationale d'administration. Il s'agit de renforcer désormais les cadres administratifs, de préparer la formation des hauts fonctionnaires qui vont diriger donc les grands corps de l'État, la formation des préfets aussi, qui sont les représentants de l'État dans les départements. Donc une école qui doit construire cette culture de l'État. Voilà. Alors on voit que le bilan est finalement dit très rapidement, mais il est considérable. On pourrait ajouter à cela bien évidemment la construction européenne, qui a été aussi qui est à mettre à l'actif
de la 4e République.
De la 4e République, donc un bilan considérable, et pourtant peut-être quand même souligner ce contraste entre ce bilan d'une part et puis cette image de régime mal aimé des Français, qui lui colle à la peau entre guillemets et jusque dans la mémoire présente. Pourtant, on peut évoquer l'exemple de Pierre Mendès France, qui essaie d'une certaine manière de redonner vigueur à cette idée donc du parlementarisme rationalisé, qui essaie aussi d'introduire un nouveau style politique avec un lien direct avec les Français. On penserait à ces fameuses causeries au coin du feu.
Voilà. Et ça, c'est donc la première partie. Deuxième partie, donc.
Deuxième partie, donc. Donc la Ve République. Alors, rappeler quand même, faire cette transition politique sur justement l'effondrement de cette Quatrième République avec la guerre d'Algérie, qui amène donc le retour du général de Gaulle au pouvoir avec une volonté de changer de régime et donc de changer la manière de gouverner. Bon, donc le général de Gaulle, nouvelle constitution adoptée par référendum en septembre 1958 et qui renforce considérablement les pouvoirs de l'exécutif et en particulier du président de la République. D'accord, on peut évoquer notamment la possibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale ou de recourir au référendum. D'accord ?
Et l'article 16 peut-être.
Et l'article 16
sur les pleins pouvoirs.
Sur les pleins pouvoirs qui sera utilisé donc en 1961. Rappeler également que la légitimité du président de la République est renforcée par la réforme de 1962, la réforme constitutionnelle, donc qui établit le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Donc ça, c'est un point essentiel. Bon, les pouvoirs de l'Assemblée sont plus limités, sont plus encadrés. On a donc une rupture avec la tradition républicaine française et la création d'un régime semi-présidentiel qui est un compromis entre le régime parlementaire et le régime présidentiel.
Nous sommes toujours dans la deuxième partie de cette copie sur gouverner la France depuis 1946. On accélère un tout petit peu.
On accélère un petit peu et justement, c'est la modernisation de la France qui s'accélère sous l'impulsion du général de Gaulle. Une politique de grandeur, redonner à la France le rang de grande puissance.
Et donc, dans cette maison de la radio qui a été construite à ce moment-là, effectivement, on pourrait presque citer cet endroit comme lieu de la grandeur de la France telle qu'elle était voulue par le général de Gaulle.
Exactement, et on aura l'occasion de reparler de la question des médias. Donc, un certain nombre de grandes mesures fortes, la création du nouveau franc en 1960, un État qui encourage aussi la constitution de grands groupes industriels, l'État qui mène aussi une politique de soutien à l'innovation, développer le nucléaire. Alors, c'est pas la Quatrième République a enclenché le mouvement, mais là, les choses s'accélèrent. L'informatique aussi avec le plan calcul, l'aérospatial, l'aéronautique, le Concorde, 1969 par exemple. Un État aménageur qui se renforce avec des administrations nouvelles comme la DATAR, direction à l'aménagement et l'action régionale, la création des préfets de région, et puis un État qui construit de très nombreuses infrastructures, vous l'avez dit, autoroutes, les premières centrales nucléaires, nouveaux aéroports, etc. Bon, voilà. Encore une fois, le détail peut risquer de nous faire perdre de vue l'essentiel. Un État aussi qui intervient activement dans le savoir, l'éducation et la culture, la scolarité obligatoire repoussée à 16 ans, la création des collèges en 1963, on construit presque un collège par jour dans les années 60. Voilà la création, bien sûr, du ministère de la Culture, dont le premier titulaire pendant 10 ans sera André Malraux. Donc une politique de modernisation qui va donc permettre à la France d'entrer de plein pied dans les Trente Glorieuses. C'est une période de forte croissance, plus de 5% par an en moyenne, et qui, en contrepartie, donne aussi à l'État des ressources pour moderniser le pays. L'investissement public, alors, est très fort. On compte en 1967, l'État réalise près de 50% de l'investissement en France. Alors, on ne quittera pas de Gaulle sans faire un petit sort à sa relation particulière à l'opinion publique. On pourrait presque dire que de Gaulle cherche à gouverner, et c'est un peu le gouvernement par ou le gouvernement de l'opinion publique. Il essaie d'établir un lien direct avec les Français. Il a besoin d'un soutien important de l'opinion publique. C'est ce qui justifie aussi la présidentialisation du régime. Il recourt au référendum, l'élection au suffrage universel. Tout ça nécessite d'avoir une opinion publique favorable. Et du coup, ça rend d'autant plus nécessaire le contrôle de cette opinion publique. On évoquera le rôle important du ministère de l'Information, qu'il va renforcer son contrôle sur les médias, et notamment sur les médias modernes, comme la radio et la télévision, avec la création en 1964 de l'ORTF. De Gaulle utilise régulièrement la télévision pour parler aux Français les yeux dans les yeux. On a compté, je crois, près de 59 adresses aux Français à la télévision durant sa présidence. Voilà, on arrive à mai 68, qui est aussi une remise en cause de cet État gaullien un peu trop étouffant. On ne rappellera pas les slogans des étudiants des Beaux-Arts, justement stigmatisant ce contrôle trop fort sur l'information. Et cela nous permet de faire une transition.
La police vous parle tous les soirs à 20h.
Tous les soirs à 20h, exactement, avec la tête d'un CRS derrière un micro siglé ORTF. Bon, et cela nous permet de faire du coup une transition vers la dernière partie, c'est-à-dire de dire que finalement, après de Gaulle et son successeur Georges Pompidou,
1974, Giscard d'Estaing, on met fin au ministère de l'Information, on démantèle l'ORTF, 1980, Mitterrand, les radios libres, puis la privatisation de la télévision. Finalement, à travers cet exemple sur l'opinion publique et les médias, on donne déjà une idée...
De la bascule,
voilà. Alors, c'est une recette, hein. Je ne dis pas qu'elle est absolument la meilleure, mais voilà, elle permet donc la transition. Et important de rappeler aux élèves de ménager ces transitions, qu'on n'ait pas une espèce d'effet de tiroir entre les parties.
Troisième partie, on va aller un peu plus vite, si vous voulez bien, Sébastien.
Alors, troisième partie, elle est marquée donc par la remise en cause de l'État depuis les années 70, notamment la crise de l'État keynésien, hein, qu'on a définie dans la première partie. Elle est provoquée notamment par déjà un début d'essoufflement de l'économie française et puis les chocs pétroliers de 73 et 79. Le chômage s'installe. Un chômage massif, hein, dans les années 80-90, on dépasse les 10%. Des politiques de relance de type keynésien qui montrent leurs limites, et on commence à se demander finalement si le problème ce n'est pas l'État plutôt qu'il n'est la solution. Et on a du coup une nouvelle idéologie économique qui commence à s'imposer dans la tête des gouvernants avec le néolibéralisme, hein, donc il est ici important de définir, qui est donc le contre-pied, hein, du keynésianisme, de l'État keynésien, donc cette doctrine du libéralisme économique qui remet en cause donc l'interventionnisme de l'État, privilégie l'offre et cherche du coup à alléger les charges qui pèsent sur les entreprises. Ça se traduit par des politiques d'austérité. Ça se traduit par la remise en cause également donc de cet État-providence qui s'est construit après la Seconde Guerre mondiale. Hein, on cherche à faire des économies. Hein. Alors on pourrait citer quelques exemples comme la réforme des retraites, l'adoption de la RGPP, donc Révision Générale des Politiques Publiques, qui vise finalement à rendre, entre guillemets, plus rentable, hein, à retravailler le coût, le rapport coût-efficacité de l'administration
publique. Les privatisations
publique.
Aussi.
Et puis évidemment,
les contrepoints.
Les privatisations qui sont un moyen aussi pour l'État de se désendetter. On vend les entreprises au secteur privé. L'État vend ses parts, vend des entreprises. Ces privatisations, c'est un cheminement finalement durable des années 80 jusqu'à nos jours. Et surtout, rappeler que la gauche comme la droite privatise. Hein. Le dernier gouvernement à nationaliser, c'est le gouvernement donc de Pierre Mauroy sous la présidence de François Mitterrand donc en 1980-82, mais très vite, hein, la gauche se rend à ces solutions.
D'accord. Et si on avance un tout petit peu dans cette troisième et dernière partie, alors, avant d'aller à la conclusion,
la remise
avec
en
vous,
question de l'État, rapidement, c'était aussi un État qui est concurrencé par le haut et par le bas. Par le haut, avec notamment la construction européenne, hein, qui va aussi, d'une certaine manière, remettre en cause une part de la souveraineté de l'État.
Les transferts de compétences.
Avec les transferts de compétences, et puis ce qu'on appelle les critères de convergence, ou le pacte de stabilité, qui restreignent en fait la marge de manœuvre de l'État. La création de l'euro, qui est quand même un renoncement à la souveraineté monétaire, ce n'est pas rien. Et puis, concurrencé par le bas, avec la décentralisation. Hein. Bon, les grands... au moins évoquer les lois de fer 1982-83, la création, en tout cas les régions qui deviennent des collectivités territoriales, des transferts de compétences importants, hein, qui sont faits vers donc ces différentes collectivités, départements et communes également, que tout ça finalement obéit à une logique d'essayer de rationaliser, d'essayer aussi d'améliorer l'efficacité de l'administration publique, d'accord, d'alléger les coûts aussi, et de créer aussi peut-être une démocratie de proximité. Il faudrait quand même faire un sort aussi à la crise de représentation politique que connaissent les gouvernements à partir des années 80, hein, qui se traduit notamment, on l'a pu le voir récemment, par l'importance de l'abstention, du vote blanc, la montée des partis extrémistes, les grandes mobilisations contre le gouvernement. Qui sont
les cohabitations aussi, j'imagine.
Les cohabitations, les alternances régulières, hein, qui montrent d'une certaine manière une crise du politique. Hein. Qui, par contre-coup, donnent un peu du grain à moudre à cette démocratie d'opinion qui devient un peu une nouvelle méthode gouvernementale qui se fait parfois au détriment, finalement, de choix responsables et de politiques à longue vue. Voilà. Pour conclure sur cette partie, rappeler quand même qu'il faut relativiser ce recul de l'État, hein, que les Français restent quand même attachés à cet État-providence, que cet État-providence a su renouveler aussi ses moyens de financement, par exemple, hein, avec des créations de nouvelles sources comme la CSG, a su créer de nouvelles formes d'assistance, je penserais au RMI, au RSA, la CMU, je ne donne pas les dates, mais voilà. Et puis un État qui reste un État protecteur, qui protège les libertés, un État toujours aussi présent dans la sphère sociétale. Hein, on pourrait très récemment évoqué, par exemple, l'arrêt du Conseil d'État sur le burkini, hein, qui est une manière de montrer que l'État est toujours présent pour protéger les libertés.
Alors, on conclut cette copie, après ces trois parties que vous avez bien développées, Sébastien Durand, par quoi ?
On pourrait conclure donc en rappelant rapidement un peu cette... le cheminement, hein, donc faire un très bref résumé. Donc finalement, pour dire que cette place de l'État et la manière de gouverner ont donc connu de sensibles évolutions durant la période, qu'on a désormais un État peut-être plus gestionnaire, qui a renoncé à un certain nombre de leviers économiques, un État moins centralisé, un État qui aussi qui a perdu une part de sa souveraineté. Des changements qui sont dus à la fois à des évolutions historiques majeures, mais également à des choix idéologiques, c'est important de le rappeler. Keynésianistes, ni néolibéralistes, ce sont des choix idéologiques qui du coup, sont des choix politiques. Bon, et puis c'est aussi finalement, ça peut permettre d'amener la notion de gouvernance, qui est une notion importante dans ce thème-là, justement, dans le thème auquel appartient ce chapitre-là, puisque désormais l'État doit composer de plus en plus avec d'autres acteurs, et ce qui nécessite donc ce qu'on appelle désormais, c'est très à la mode, donc la gouvernance, établir des règles un peu de fonctionnement entre ces acteurs, et enfin peut-être terminer sur cette manière, ce gouvernement, cette question du bon gouvernement de la France qui continue de susciter d'importants débats. Hein, et c'est peut-être là une spécificité française. Rappelez quand même qu'en 200 ans, nous avons changé 13 fois de régime. C'est pas rien. La question d'un changement de régime se pose toujours. Et que d'une certaine manière, et ça serait une façon d'ouvrir le sujet, hein, il y a toujours de fortes divisions. Et se demander si les années qui viennent résoudront ou aggraveront finalement ces divisions sur la manière de gouverner.
On peut par exemple évoquer la demande récurrente d'une 6e République.
Exactement. Hein, voilà.
Merci Sébastien Durand. Voilà pour cette première émission consacrée au bac, une émission préparée comme toutes les autres avec beaucoup de passion par Aurélie Marsay, que je remercie, avec à la technique Olivier Dupré, Émilie Couette, Célia Dufour, Titouan Ouex, Chardonnay Stevens, et à la réalisation Véronique Samuilov. Mais demain, nous continuerons avec un nouveau sujet, avec Nathalie Cosse, professeure au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, et ses élèves. Donc, nous nous retrouverons pour une discussion autour de la puissance américaine dans le monde. Vous pouvez bien évidemment écouter cette émission ainsi que toutes les autres sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, la télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion. Vous pouvez aussi réécouter les anciennes émissions de la Fabrique de l'Histoire sur ce thème, et aussi, si vous passez par exemple d'autres épreuves comme les sciences, la philosophie, la littérature, et bien n'hésitez pas à écouter tout de suite les chemins de la philosophie, la méthode scientifique cet après-midi, ainsi que la compagnie des auteurs. Et pour les SVT, dimanche à 16h, l'émission de Cause à Effet, l'émission d'Aurélie Nuno. Vous avez tout ce programme sur le site de France Culture, franceculture.fr. À demain.